blanche. Bienvenue dans l'intro de Cash Out. Avec Lou Reed, qui n'est pas notre invité, mais l'auteur de cette chanson. Notre invité, c'est Xavier Sillon, qui va nous raconter les fails et les grails de sa vie d'entrepreneur, et plus spécifiquement de la revente de vos déclics pour 20 millions de dollars, en tout cas c'est ce que j'ai lu, à l'entreprise Skillsoft. On se plonge un peu dans la musique, on se met dans l'ambiance.
On se détend.
Bonjour Renaud, ravi de te retrouver.
Salut, ravi également.
Et donc bonjour Xavier officiellement. Bonjour, on s'était déjà dit ouais. Bonjour tout à l'heure quand même.
Ouais, bonjour ouais. À tous les deux.
Et bonjour à tous nos auditeurs de plus en plus nombreux avec plein de super retours. Donc merci à vous tous. Donc on parle de ton aventure Vos Déclics, mais avant ça il y en a une autre.
Ouais.
Et je parlais de fail et de grail pour reprendre tes mots.
Ouais. Vos Déclics, c'était une boîte qui faisait de la formation en ligne à une époque où c'était pas super branché, ça l'est devenu après. Et c'est en fait la fille. Ouais, la fille spirituelle d'une première boîte qui s'appelait FamiClick. Donc là, c'était la notion de famille et de digital. C'était une boîte de formation et d'assistance informatique à domicile.
Et la fille a fait mieux que la mère.
Exactement, puisque la première a fini en liquidation judiciaire avec cotation aux banques de francs. Donc c'était difficile. Mais
est-ce que tu saurais pourquoi les raisons de ce fail, de ce premier fail?
Là, il faudrait peut-être enregistrer un deuxième fail out. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. L'enthousiasme de départ sur le fait qu'il y avait un vrai pain point à une époque où les technos étaient monolithiques, et alors que le digital va faire que on sait faire quelque chose à un instant T, puis le lendemain on saura toujours le faire, mais c'est autre chose qu'il faudra savoir faire. Donc sur le papier, c'était beau. Mais cette boîte, la première FamiClick, c'était des prestations de services à domicile. Donc ça veut dire que 100% de ton coût opérationnel, c'est du staff. Et remplir un agenda de 7 heures effectivement facturées chez des clients à domicile pour quelqu'un qui est payé 7 heures, c'est un modèle très, très, très difficile.
Du coup, si je résume, entre le fail et le grail, il y a le scale.
Exactement.
J'aime bien les rimes.
Hein? Ouais, donc là, Vos Déclics, en fait, a surfé sur cette analyse très fine du marché où, et je pense qu'en 2022, c'en est fondamentalement l'illustration d'une obsolescence, entre guillemets, programmée par les éditeurs de techno qui font que faut toujours apprendre quelque chose de nouveau. Au lieu de faire cette prestation-là et ce transfert d'informations, et de savoir aux utilisateurs, au lieu de le faire à domicile avec un formateur, c'était plus simple de le faire sous forme de petites vidéos avec des playlists. Voilà.
Une boîte qui part en liquidation judiciaire, une autre qui va se revendre plusieurs millions de dollars aux États-Unis. Derrière, il y a le même homme, pas forcément exactement les mêmes équipes, mais il y a le même homme. Et le regard sur l'homme et ce qui se passe dans sa tête est pas le même. Alors, et pourtant, c'est le même.
Ouais, c'est pas le même, et ça dépend à quel moment on en parle. Tout ça, maintenant, est rationalisé. C'est aussi beaucoup les mêmes, parce que j'ai monté Vos Déclics avec deux associés, Gabriel Morisson et Guillaume Montard. Et quand on a créé cette boîte en fin 2007, j'avais 37 ans, et eux en avaient 22. Et en fait, je les ai connus parce que je les ai recrutés pour des boulots étudiants, justement, dans ma première boîte. Et là, j'ai trouvé deux jeunes, super brillants, beaucoup plus tech-savvy que moi.
Tech-savvy?
Ouais, plus branchés sur les technos, plus visionnaires sur le long terme.
Il y avait une part de risque, là, du coup, assez fort. L'écart, il est important.
Ouais, alors
l'écart d'âge,
c'est le risque au moment de la création de la boîte, bien évidemment. À un moment ou à un autre, c'est d'un côté, je me plante, j'en pleure des litres parce qu'il a fallu licencier tout le monde. Tu te retrouves au tribunal. Là, t'es tout seul. Hein. C'est le tribunal à la tribunal de commerce à Paris. T'es dans une salle qui date du fin 17e, début 18e, ouais, j'exagère un peu, 10 mètres de plafond, ils sont tous en noir devant toi, et globalement, et puis on te fait comprendre que t'es quand même une merde. Hein. Donc c'est difficile, mais je pense que c'est quand c'est difficile qu'il y a tout ce qu'il faut pour rebondir, et j'étais intimement convaincu que, en fait, la toujours pareil, qu'est-ce qu'une bonne idée? Bah, une bonne idée sans la bonne exécution, c'est une mauvaise idée. Donc il y avait une bonne idée, mais ma première boîte, c'était une mauvaise exécution. C'était pas comme ça qu'il fallait adresser le marché. Et voilà.
C'est quand même des capacités de résilience hyper fortes d'y recroire après des événements un peu traumatisants. Tu parlais du tribunal de commerce, etc. C'est hyper fort de repartir au combat, quoi.
Eh ben, ouais. Presque sans transition, on va repartir vers l'aventure qui fait que t'es là aujourd'hui dans Cash Out, Xavier. Et je te propose de te replonger dans ce premier jour, celui où tu pars signer la vente. On va le faire de manière très déstructurée, mais on aime bien ça sur ce format. Et pour parler de ce jour-là, tu as choisi Frank Sinatra, That's Life.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm
Donc le titre c'est That's Life.
That tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
Je crois que t'as envie de chanter.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down.
Alors, tu dis That's Life, mais c'est pas la vie de tout le monde de vendre sa boîte.
Ouais, c'est pas, bien sûr, c'est pas la vie de tout le monde, mais le mood à ce moment-là, le matin de la signature. D'abord, tant que c'est pas signé, rien n'est fait. Hein.
Est-ce que tu repenses à ta première boîte? On en a parlé tout
bien
à l'heure.
Bien sûr, ouais. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. D'abord, il est phénoménal. J'invite tous ceux qui aiment ou qui n'aiment pas cette chanson-là de lire les paroles. Et c'est vraiment l'illustration du « si tu tombes, tu te relèves ». Et tout ça, c'est une affaire d'abnégation et d'envie. Et c'est vrai que ce matin-là, sachant qu'on a... Enfin, le matin-là... On devait signer dans la soirée, on a fini le lendemain matin à, je sais pas, 3h ou 4h du matin.
On mais va revenir
ouais,
sur ces
le feeling, le feeling, c'est vraiment, il se passera ce qui se passera. On s'est arraché pour arriver jusque-là et c'est les derniers mètres, les derniers kilomètres.
Tu peux nous raconter heures. Géographiquement comment ça s'est passé de manière très concrète pour que les auditeurs puissent se projeter
La signature ?
Ouais, en elle-même.
Bien sûr, on avait rendez-vous à 20h au cabinet d'avocats de l'acquéreur, Skillsoft. Toute la journée, en fait, a été assez calme, puisqu'on était vraiment dans la fin du process.
Tout était booké, acté, il n'y avait plus de négo.
Oui, si, il y a encore eu quelques petites négos.
Donc il y avait des points de négo.
Mais assez, je vais revenir dessus dans deux secondes. Et en fait, on s'est retrouvé à 20h avec, on avait une cap table très simple, donc avec nos deux business angels historiques, le fonds d'investissement. Et puis, ça tardait un peu parce qu'il y avait encore des choses à relire. Là, c'était vraiment les avocats qui géraient parce que c'était on est vraiment... technique juridique.
Donc là, tu es dans l'attente.
Pas dans le fond, voilà.
Enfin, des fois, on arrive et il n'y a plus qu'à signer. C'était pas le cas.
Non, c'était pas le cas. Et donc, jusqu'à 22h, 22h30, il ne s'est rien passé. Donc,
Les deux heures, elles sont longues quand même.
Alors, non, parce que, en fait, c'était un soir de demi-finale de Ligue des Champions. Et donc,
ça permet de se mettre une bonne ambiance quand même.
C'est régalé. Tout le monde n'était pas fan de foot, mais moi, oui, il y avait une demi-finale Barcelone-Bayern de Munich.
Donc, t'as décalé la signature pour aller jusqu'au
tir au but. J'aurais pu, et étant parisien, je suis né en banlieue parisienne, pas loin du camp des loges, doublé de Messi, but de Neymar. Ce serait bien qu'il fasse la même chose à Paris. Hein. Bon, en tout cas, on a regardé le match. On a regardé le match, et puis après, il y a eu 2-3 allers-retours de négo sur des points très, très techniques. La garantie de passif comme souvent
c'est souvent le sujet
beaucoup d'énergie à la fin Et ce que j'en retiens, en fait, c'est que t'es cuit. C'est-à-dire que t'es plus dans la seringue, t'es dans l'aiguille, et l'acquéreur le sait.
Tu crois que c'était volontaire?
Non, je pense pas. Je pense que simplement, là, on était vraiment sur des sujets de propriété intellectuelle, de morceaux de notre code sur la Chine.
Qui vous appartenait complètement, parce que je me rappelle Ludovic Huro, on en parlait tout à l'heure.
Entendu, ouais. Non, nous on avait tout développé, sauf que puisque là le sujet c'est la garantie de passif, ce qui a pris énormément de temps à un moment, c'est notre techno, elle était de fait faite d'imbrication de techno open source, et là il a fallu vérifier chaque stack techno, chaque plugin, chaque outil. Est-ce que c'était la bonne librairie open source qu'on utilisait? Est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir un risque, etc., etc.
Et pourquoi l'acquéreur ne le fait pas en amont, au moment de la due deal?
Il le fait en amont, mais à force de vérifier, c'est comme une poupée russe. Hein. Tu démarres un truc, tu continues, tu veux en savoir plus, etc. Et ta question fait ressortir aussi le fait que l'acquéreur, Skillsoft, c'était le leader mondial du digital learning à l'époque. C'était la grosse Bertha, l'énorme machine qui arrive pour acheter une petite entreprise française. Et je pense que c'est un peu comme un fonds d'investissement qui est habitué à faire des tickets de série B à 20, 30, 40, 50 millions. Il sait pas investir un ticket de 500 000 en précide. Bah là, c'est pareil, c'est la grosse machine qui ne sait pas faire autrement que de fouiller dans tous les sens. Mais d'un autre côté, ils achetaient une techno, un potentiel de développement, une capacité à scaler worldwide.
Oui, ça s'entend qu'ils checkent, bien sûr.
Ils vérifient tout ça.
OK. Et donc, la nuit se poursuit et on arrive à la fin des négociations.
Ouais,
à quelle heure?
Ouais. À minuit et demi, une heure. Et là, on rentre dans le process, dans la grande salle de réunion du cabinet d'avocats, avec tous les documents bien triés, organisés.
Je reviens sur poursuivre sur la question de Renaud, sur ce que tu disais tout à l'heure. On est passé de dans la seringue à l'aiguille. C'est-à-dire que tu lâches sur justement cette garantie de passif et ce qui est demandé.
Lâche. Oui, on a accepté, mais en fait, ça changeait pas grand-chose sur le fond.
Du montant. Si le montant
Non, parce qu'en fait, ça n'avait pas d'impact sur tout le process, la partie séquestrée, les claims qu'il pouvait y avoir, etc. C'est simplement d'accepter
un niveau de risque supplémentaire.
Un niveau de risque, etc. Ça changeait pas le prix, ça changeait pas le deal lui-même, ça changeait pas le projet. Et puis par ailleurs, on était quand même aussi sur un dossier où il y avait un énorme projet derrière pour la boîte, pour tous les salariés, énorme budget de recrutement. La boîte a plus que doublé de taille dans les mois qui ont suivi. Et ça fait que des négos, c'est dur, mais à un moment ou à un autre, tu sais que celui avec qui tu discutes, le lendemain, la seconde qui suit, ça y est, tous les docs sont signés, c'est ton collègue. Donc tu peux te prendre la tête avec lui, mais à un moment...
Jusqu'à un certain point.
Voilà. Jusqu'à un certain point, avec des logiques d'earn-out, d'accompagnement, voilà, etc. Donc ça ne s'arrête pas, la signature.
Exactement. Donc on boucle la signature, les kilomètres de trucs à signer. Donc moi, je ne signais que pour moi, mais l'un de mes cofondateurs, lui, avait des pouvoirs.
Il n'était pas en digital.
Il a bien souffert. C'est toujours assez rigolo, cette partie-là. Et puis, il y a quand même aussi une partie où t'es quand même épuisé, quoi. Ça faisait des mois qu'on discutait. Ça n'a pas été très long, hein. Il y a eu des rebondissements. Et donc, t'es content quand même quand ça se finit. Puis tu rentres chez toi, globalement, dans un état second.
Et le sentiment premier, c'est quoi? C'est le soulagement?
Ouais, c'est le soulagement parce que on a signé le 7 mai 2015. On devait signer le 30 avril, mais en fait, tout le monde s'est dit, à juste titre, le lendemain du 30 avril, c'est le 1er mai, il va y avoir un problème pour les virements bancaires. Ça, on a décidé le 20 avril, de décaler au 7 mai. Et le 9 avril, LinkedIn a racheté lynda.com, l'un des très très gros acteurs, une grosse start-up américaine dans le digital learning, pour 1,5 milliard. Donc là, à ce moment-là, on n'était pas dans la dans l'aiguille, on était dans la seringue. Et là, tu te dis, ouais, mais en fait, il se passe quelque chose, il y a un game changer sur le marché. Ça, c'est typiquement le truc où, en fait, le deal, t'es à deux semaines de le signer et en fait, tu le signes pas. Là, t'as un grand moment de solitude. Là. Grand moment de solitude.
Qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas signer? Parce que c'est aussi l'opportunité pour la grosse Bertha dont tu parlais de se renforcer, de pouvoir se mettre en face, au moins en partie.
Oui, alors, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un deal ne se signe pas? Les équipes ne s'entendent pas, la valo n'est pas là, les conditions, le cash, tu es payé en action. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Et puis, il y a des facteurs exogènes. Oui. Et là, on était clairement sur un facteur exogène. Est-ce que propriétaire de Skillsoft, qui était un fonds de LBO anglais, est-ce que leur stratégie de financer des acquisitions va pas être remise en cause par cette opération? A posteriori, en fait, maintenant je sais, puisque forcément on a vendu et donc on a discuté après, ça n'a fait que renforcer leur intérêt pour l'acquisition.
On était sur le moment du réveil, celui du jour de la signature. Et alors des réveils, il n'y en a pas qu'un, on en a tous les jours dans sa vie. Et à ce propos, on a une question d'Arnaud.
Bonjour.
Tu es banquier privé chez notre partenaire Neuflys OBC. Alors, cette question pour Xavier, on l'écoute.
Tout à fait. Alors, Xavier, moi, ma question, elle se porte sur l'organisation de ton quotidien. Est-ce que tout au long de ces années, tu t'es construit une routine quotidienne, que ce soit le matin ou le soir, qui te permet de conserver beaucoup d'énergie? Est-ce que tu peux nous la partager?
Alors, j'aimerais te la partager, Arnaud, mais en fait, je n'en ai pas. Et je n'en ai jamais eu de routine. La seule routine que j'avais comme entrepreneur, c'était de pointer la trésorerie tous les lundis matins. Alors, c'est pas un sujet d'énergie, mais c'est une façon de sentir, voilà, de cadrer son business. Mais non, pas de routine.
Ça te faisait passer de meilleures nuits, meilleures semaines?
Non, c'était... j'ai pas de formation. J'avais pas d'expérience en compta, etc. Et c'était pour moi la meilleure façon d'anticiper les cycles, d'anticiper le cash flow de l'entreprise. Et comme je le disais tout à l'heure, ma première expérience entrepreneuriale a fini en liquidation. Et donc je me suis beaucoup interrogé sur ça. Et l'une des raisons, probablement, parmi d'autres, c'est pas assez de focus sur fondamentalement, à un moment ou un autre, ce qui est une boîte.
Et donc le cash, la trésorerie.
Exactement, et voilà.
Très bien.
Et bien justement, on va revenir sur ces années d'entrepreneuriat et on va passer au flashback. Et ce flashback, on va le vivre en musique, une musique que tu as choisie, Ya Raya de Rachid Tah. Ça bouge dans les studios là. Pourquoi on kiffe cette émission au-delà des aventures d'entrepreneurs qu'on adore?
On kiffe grave.
Pourquoi ce choix?
Pourquoi ce choix? Parce que le premier contact, la première discussion réellement aboutie, approfondie avec l'acquéreur, hein, qui était celui qui pilotait ça, était le patron du corporate développement de Skillsoft. Et Le soir de leur venue à Paris pour démarrer les due deals, et ça a été très marquant en fait, il me dit bien on va manger au resto, et puis après je connais une boîte à Paris, les Trois Maillets. Alors les Trois Maillets, pour ceux qui connaissent pas, on est près de Notre-Dame, c'est un caveau, une cave sous terre, voûtée, et avec beaucoup de musique, comment dire, gypsy, de la musique folklorique, du Maghreb, des Balkans, etc., avec des groupes qui succèdent. On est arrivé à après le dîner, hein, donc un dîner avec un Américain, c'est-à-dire qu'on a fini à 19h15. On est allé
avant
boire,
l'apéro.
Voilà, donc on avait déjà picolé. On est allé boire un coup à côté des Trois Maillets parce que c'était pas encore ouvert et on a fini très très tard, hein, à pas loin de 2h du matin.
Qui a choisi le lieu?
Lui. John Ambrose, un type avec qui je suis en contact régulièrement. On a beaucoup rigolé parce qu'on se remémore nos vieilles histoires. Et en fait, il voulait aller là parce que Skillsoft avait déjà essayé d'acheter une boîte en France il y a quelques années. Et il avait passé une très bonne soirée avec le CEO de cette boîte-là, à cet endroit-là. Ouais. Et c'est important parce que après, chacun vit son aventure d'exit comme il le souhaite. Moi, je viens d'un monde quand même de la formation, donc qui est une affaire de partage. Donc la dimension humaine, elle est quand même forte. Et on s'est très bien entendu humainement. On a parlé de plein de choses, de diverses et variées, pas que de business. Et pour ceux, il y en a plein, hein, qui écoutent ton podcast ou votre podcast, qui savent que les Américains sont très durs en business, mais sont extrêmement attachants et sympathiques. Vous pouvez parler de tout avec eux. Et là, on a vraiment a posteriori. Puis après, on y est retourné dans cette boîte. On a noué des relations qui ont fait que on se parlait tous les jours, et que ce soit des bons ou des mauvais sujets, que ce soit difficile ou pas. Et je pense que il y a eu des moments très difficiles, proches de la rupture. Je suis pas sûr. Mais en tout cas,
cette proximité
fait qu'il y avait toujours, même quand moi je me prenais la tête avec leurs équipes, ou que les avocats se fightaient, qu'il fallait...
Il y a toujours le téléphone rouge entre l'Amérique et en l'occurrence la France.
Exactement, voilà. C'est un peu ça, bon résumé.
Et si on revient un peu en arrière, à quel moment ça a germé dans ta tête l'idée de céder la boîte? Dès le début, c'est arrivé plus tard.
Alors, avec le recul maintenant, clairement, quand tu lèves de l'argent, c'est finalement le début du compte à rebours avant que cet argent-là sorte. En tout cas, s'ils sont des business angels ou des fonds, ils sont à la recherche d'un multiple. Donc, de toute façon, c'est...
Alors, c'est pareil ou c'est un peu différent? Les BA ont peut-être mettre moins de pression ou moins de reporting ou
non, là,
moins d'obligations.
Je parlais pas de pression. Ouais. Ouais, c'est juste que c'est ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour des dividendes dans l'hypothèse où ton entreprise puisse en sortir, même si c'est le cas avec Ludovic chez Attractive World. En fait, non. Le scénario est le suivant. On a levé très peu d'argent avec vos déclics. Ça en est même.
Oui, avec le recul, quand on voit les levées aujourd'hui, sourire.
À la même époque.
Ouais, mais comme j'exprimais tout à l'heure, c'est la suite d'une liquidation. Moi, j'étais quand même en danger sur mes finances personnelles, sur mon patrimoine perso. J'avais 3 enfants à l'époque. Donc c'était vraiment pas facile et donc on fait un tout petit tour microscopique, les auditeurs vont rigoler, mais c'est l'illustration qu'on peut faire des choses magiques si on y croit avec peu. On a levé 125 000 euros, valorisé 300 000 euros pré-monnaie. Voilà. Donc ça veut dire que 125 000 en post-monnaie à 425, ça fait rien. Et donc ces deux business angels, trois en l'occurrence puisqu'il y avait la maman d'un des fondateurs, ils ont fait fois 42 ou fois 44 leur mise. Donc on a levé un tout petit peu parce qu'il fallait absolument lever, sinon moi je pouvais pas continuer. Ça faisait déjà un an et demi que je me payais quasiment pas, si c'était moins que le SMIC avec ma boîte précédente.
Et dans ces moments-là, la négo, enfin t'es moins en position de toute manière de négocier.
Ouais, et donc on a levé peu. On a fait un premier tour, on a levé peu. Après on a fait un second tour, on a levé peu aussi. Et pourquoi j'explique ça, c'est que Skillsoft nous a contactés au moment où nous on était dans un roadshow pour faire un troisième tour de table. Et là on cherchait à lever 4 millions d'euros ou 5 millions de dollars pour s'internationaliser. À l'époque, on avait déjà signé des très 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 beaux dossiers dans le CAC 40, et notamment qu'on avait piqué à Skillsoft.
Ouais. Voilà.
Donc on les titillait en France.
C'est une belle manière de se faire voir.
Voilà, avec un coton-tige et un couteau suisse, on a réussi à choper 2-3 clients aux États-Unis, dont rebelote un gros assureur américain à Skillsoft. en leur prenant un petit bout de leur business sur notre verticale, hein, c'est-à-dire la formation aux outils bureautiques et digitaux. Mais ça fait pas rêver. Hein. Formation bureautique, quoi. Déjà à l'époque, il y a 15 ans, on nous disait mais ça existe encore ça. Voilà. Non, maintenant c'est super branché, c'est le learning experience, you know, digital learning.
C'est mieux dit, c'est
mieux dit, c'est fabuleux. C'est autre chose.
Hein. Déjà dès que tu le dis en anglais, c'est toujours plus sexy. Enfin, c'est comme une chanson. Hein.
Et on était en roadshow, avec avec Clipperton Finance qui nous accompagnait, et j'ai reçu une invitation sur LinkedIn de l'équipe de corporate development de Skillsoft.
Et là, ça te met la puce à l'oreille.
Hein. Your stuff is amazing. Can we have a chat? Point.
Là, factuel.
Je vais voir mes deux associés. Waouh! C'est quoi le corporate development? Voilà. On était complètement à l'ouest. Et puis, les choses s'enchaînent assez vite. Un premier call rapide. Un mardi. Voilà. Deuxième.
Mais là, il y a le côté, pardon, on se replonge un peu dans l'ambiance, mais tu dis, ils testent, ils veulent voir, mais j'y crois pas trop. Ou c'est bon, c'est quasi gagné. Maintenant, on est paillettes.
Non, mais tout ça, c'est un cheminement. Le cheminement très rapide qui nous a fait arriver aux trois maillets dans cette
boîte.
Parce
que tu parles de Skillsoft, et désolé, je te coupe, mais est-ce qu'il y a eu d'autres acteurs qui se sont immiscés?
Non. On a.
C'est eux uniquement.
Je le synthétise. On s'est retrouvé à faire un dual track, hein, c'est-à-dire d'un côté on cherche à lever des fonds et de l'autre côté on a un acquéreur potentiel. Ces premiers contacts ont abouti très vite. Hein, le dimanche qui a suivi le premier contact sur LinkedIn, ils me disent deux jours avant, est-ce que t'es dispo dimanche, on peut venir et on fait l'aller-retour de Boston pour te voir. Et j'étais tellement surpris de la question aussi directe et aussi rapide. On est un vendredi, est-ce qu'on peut te voir dimanche au petit déjeuner? Ah, c'est bon ça, c'est bon. et connaissant quand même pas mal la culture américaine, je réponds avec un jeu de mots en lui disant, écoute, je sais pas, il faut que je demande à ma femme. Donc ça l'a fait rigoler, etc. Bon, moralité, on se retrouve au Four Seasons, avenue Georges V à Paris.
En général, ils font pas l'aller-retour pour rien, quoi. Il y a des choses.
C'est exactement ça. Petit déjeuner sur place, deux Américains que je n'ai jamais vus, 2 heures avant. Le patron du corporate development m'appelle en me disant, ah Xavier, ok, comment tu viens habiller? Je viens habiller Chuck Moran, qui était le fondateur de Skillsoft et le CEO, il me dit bon, il est très tranquille, très cool, il vient en jean, donc viens pas en costume cravate. Non, il y a pas de doute, j'en ai même pas en plus. Mais c'est juste pour donner l'idée, voilà. Donc on voyait bien déjà qui avait une vraie logique de
on va te mettre dedans et on va se préparer.
Faut s'embarquer humainement, ouais. Etc. Et là, je tombe sur deux types adorables, très bien renseignés sur les chiffres, ce qu'on faisait, etc. Et
le nom de ta femme?
Non, pas ça, ils savaient pas. Moi, je connaissais le nom de la leur, mais en fait, très très vite, la question vient sur le fait qu'ils aiment bien ce qu'on fait et que moi, je leur dis, ouais, c'est cool, mais je suis pas intéressé par un partenariat. Ils me disent, non, mais c'est pas ce dont on parle. Nous, on est intéressé pour faire une acquisition, pour faire ça, ça et ça.
Et ça, c'est avant de commander les plats, c'est tout de suite, c'est après, il y a des échanges.
Il y a les croissants qui sont là, voilà. Le truc qui était intéressant en termes de timing, c'est que j'avais un board le mercredi qui suivait. Donc moi, ça me permettait en fait
avec un peu de matière.
Ouais, puis surtout de leur dire la réalité. On est en roadshow, on est en train de lever de l'argent. Ah, c'est cool, Xavier. Nous aussi, on en a levé. Après, on est rentré en bourse. Tu sais que c'est difficile de lever de l'argent. C'est dur de revendre. Là, tu pourrais avoir une opération sécure. Ok, parle-en à ton board. Et on s'est quitté comme ça.
Je te coupe, Xavier, mais tu viens de dire, tu leur as dit, moi, un partenariat, ça m'intéresse pas. Il y a aussi plein d'acquisitions qui naissent quand même d'approches partenariales.
Ouais, mais ça me permettait, en fait, de les mettre devant le fait accompli. C'est-à-dire que nous, on va chercher un tour de financement. Donc, on n'a pas besoin d'un partenaire pour se développer. Et de les obliger à sortir du bois sur leurs intentions. Mmh. Sachant que je savais bien pour le coup que la suite allait être un NDA ou non. Donc s'il y a NDA, c'est qu'ils veulent en savoir plus. Et donc après, il faudra réfléchir à comment on mène les deux tracks avec la banque d'affaires entre cet acquéreur-là. On a imaginé d'autres, on a essayé, hein, mais ça n'a rien donné. Donc on a continué à faire un dual track, même si les fonds qu'on voyait, on est trop petit, on n'est pas assez gros, on est trop français, on n'est pas assez international. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Mais je les comprends aussi, les fonds. Les fonds, c'est comme un concours. Hein. Ils prennent la crème de 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 la crème. Et nous, on était somme toute une plateforme très branchée, super pointue en termes de tech, mais sur une verticale, je veux dire, gagner en productivité en étant moins mauvais sur Excel ou Outlook, c'est pas super sexy par rapport à de la formation sur des soft skills avec la Khan Academy, avec Coursera, avec les trucs branchés, etc. Donc c'était pas super sexy.
Ouais, tu nous disais en off que de toute manière, depuis le début, vos déclics étaient pas sexy pour les invests, du BA jusqu'au fond.
Exactement, on n'a pas eu une trajectoire avec beaucoup d'intérêt des investisseurs. Et après, c'est à la fois paradoxal, mais aussi une réalité. On est rentré dans le Deloitte fin 50, ça existe encore ça ou pas?
Je crois, oui.
Ouais, on est rentré dans le Deloitte fin de 50, 24e, un truc comme ça. Deux années de suite dans le Fast 500 Europe, à 100e place et un peu plus loin.
Mais on n'avait pas encore assez dossiers sexy.
Ouais, à un moment ou un autre, t'as la fameuse courbe en J, soit elle ressemble à un hameçon, quasiment à la verticale en termes de croissance, ou alors elle est trop plate comme une crosse de hockey. Nous, on était au milieu des deux, voilà, dans le concours de
j'aime
beauté.
J'aime bien la métaphore.
Ouais, mais j'aime bien la pêche aussi. Je suis pas hockeyeur, mais j'aime bien la pêche. Et on était dans le concours de beauté des heureux élus. On n'y était pas. Ce qui était paradoxal, c'est-à-dire qu'on avait on avait en même temps, c'est-à-dire que parfois le mardi j'avais rendez-vous chez les gros VC français de série A. Et le mardi soir ou mardi dans la nuit de mercredi, j'avais les Américains qui commençaient à pricer et à dire voilà ce que ça vaut. Et il y avait un décalage astronomique.
Alors, on poursuit dans l'histoire, après?
Alors après, première négo, c'est il faut signer un NDA. Voilà, et c'est à ce moment-là que je décide de changer d'avocat.
Pour quelle raison?
En fait, c'est assez simple. On était vraiment très bien accompagné par Clipperton Finance, qui était déjà un acteur majeur du fundraising et du M&A, qui a beaucoup progressé depuis. Et en fait, on a devant nous vraiment le leader du marché, la plus grosse boîte du secteur. Et là, Thibaut Revel, qui était le partenaire chez Clipperton Finance, me dit « Écoute, ça se présente pas aussi bien qu'on le pensait sur la partie levée de fonds. Faut vraiment border au maximum l'opportunité qu'il y a avec Skillsoft. Là, il faut qu'on ait un cabinet d'avocats qui va tout de suite donner le là face à des acquéreurs américains.
Et donc, tu vas chercher un cabinet américain,
Jones Day, ouais.
Que tu as sourcé, choisi comment, par recommandation?
Thibaut m'a dit, nous on bosse avec Thibaut Revel de Clipperton Finance, m'a dit on bosse avec ces deux trois cabinets d'avocats là. J'ai contacté les deux et le meilleur fit humain sur la logique, sur l'approche, sur l'expérience, c'est Jones Day. Et voilà. Et aussi on voulait clairement un cabinet qui est très très réputé et très important aux États-Unis. Puisque l'une des premières discussions entre avocats avec le CFO de l'époque, qui a essayé dès le début d'avoir une logique de SPA en droit américain, ce qui va à l'encontre de tous les usages, et
préciser.
Les usages font que le droit de choisi pour une acquisition, c'est le droit du pays du cédant. Voilà.
Et si t'as pas quelqu'un en face, oui.
Voilà. Et ils ont essayé d'avoir un contrat de droit américain. Autant dire que quand t'es une boîte française et que ça part en sucette au niveau juridique d'aller plaider aux US, c'est compliqué parce que t'as pas d'avocat dans ton entourage qui est
sur le sujet.
Voilà. Mmh. Et puis, bah, les prix, c'est x2, x3, x4,
x10. Et puis, sur une juridiction américaine, voilà, avec des juges américains, etc.
Et leur façon de dire, le CFO, c'était de dire, nous, on n'aime pas faire des dossiers avec des législations exotiques.
je repense à l'échange qu'on a eu avec Hervé Brunet de Stikiaz aussi. Ça avait été un sujet dans la vente aux Américains, bien sûr.
Ouais, mais ça, c'était une tentative de leur côté avec le recul, je le perçois comme une tentative de voir un petit peu
si en face vous êtes prêts.
Ouais, et fondamentalement, on était prêts. On avait vraiment une très bonne équipe. Et puis, alors après, je me souviens plus si cette discussion c'était avant le début des due deals, donc avant la LOI, la term sheet, ou c'était après. Bon, voilà.
Oui, il y a des entrepreneurs qui sont à voir.
Ah, bah, c'est clair que t'es accompagné par qui est absolument essentiel. Et j'ai un très bon pote qui m'a aidé à me faire comprendre qu'il fallait très très bien accompagner parce que,
mettre le prix.
Exactement. Parce que, ça démarre. Je me souviens le début des due deals. On reçoit le fichier Excel. Là, je me dis, ah ouais, c'est touffu quand même. Il y avait au moins 150 lignes, mais j'avais pas vu qu'il y avait 12 onglets. Ouais, j'avais vu que le premier. Et là, je me dis, waouh, c'est quoi ce truc? Et c'est vrai que la LOI a été signée le 31 janvier. On a vendu le 7 mai. En fait, t'es épuisé. Ce qui, avec le recul, et je le referai comme ça, le truc qui est le plus important, c'est de ne pas perdre d'énergie sur des choses
qui sont
peu importantes,
ouais.
mais tu ne peux savoir si elles sont peu importantes que parce que t'as une équipe qui te dit non mais ça laisse tomber, c'est pas le sujet, ça, tout ça c'est que de la technique juridique, voilà. Pourquoi? Parce qu'au moment où réellement ça compte, garantie de passif, séquestre, valeur du deal, earn-out éventuel, à quelle sauce on est mangé après, c'est là où il faut que tu sois au top de tes capacités cérébrales
et d'énergie
et de pouvoir échanger avec les uns et les autres pour prendre les bonnes décisions.
Sur ce qui compte effectivement.
Exactement.
Vraiment.
Mmh.
Et bien on poursuit l'histoire après.
Avec grand plaisir. Donc signature de la LOI 31 janvier et dès la signature, OK Xavier, on arrive et on vient le 6 février pour démarrer les due deals. OK, 6 février, très bien, quelques jours après. Vous venez à combien? Et là, je reçois un mail avec une liste de personnes qui viennent.
Mais qui viennent
Qui viennent à Paris, ouais. Qui
dans les bureaux
Paris. On a fait ça dans les bureaux de Clipperton Finance. Grande salle de réunion magnifique, etc. Ils sont venus, ils étaient 7. 7 pour 2 jours depuis les États-Unis.
CFO. Ils regardent sous la moquette.
Ils arrivent ce jour-là. Et pour la petite histoire, et ça on a beaucoup rigolé, mais il s'avère que le 6 février, c'est mon anniversaire. Il neigeait. Voilà, donc ils venaient de Boston pour la plupart. Donc je leur dis au début, bon, comment on va démarrer? On est dans une grande salle. Il n'y en a qu'un seul que j'ai vu une fois à un petit déjeuner. Les autres, je ne les connais pas. On va passer toute la journée ensemble, donc soit en plénière, soit en petit comité, qu'est-ce qu'on fait pour le biz, la tech, le truc, le machin, etc. Donc, j'essaye de préparer comment je vais amener le truc au départ, etc. Et puis, c'est là où le truc de Lou Reed, c'est top, c'est ce Sweet Gen, on l'a écouté tout à l'heure. C'est très très rythmé et reconnaissable. Par contre, en live, c'est de l'impro pur dès le début. Et là, j'ai improvisé en fait un truc. Je leur ai dit, écoutez, je suis très content que vous soyez là aujourd'hui. By the way, c'est mon anniversaire. Et donc, je me mets à chanter Happy Birthday to You. Voilà. Et tout le monde chante Happy Birthday Xavier, etc. Cette façon de briser la glace parce qu'il neigeait dehors, mais il n'y avait pas vraiment de glace, a fait que je encore une fois, une affaire humaine, avec des gens très réceptifs au sujet. Et tout a démarré comme ça, avec ces 2 jours de discussion.
à ce moment-là, t'es évidemment en phase de séduction. Du coup, t'es impressionné, t'as peur de faire un faux pas, de mettre en avant ce qui, toi, peut te sembler un argument, mais qu'en fait, ça puisse s'achoper.
Impressionné, oui, parce que c'est quelque chose qu'on a jamais fait. Mais d'un autre côté, tous les trois, avec mes deux cofondateurs, Guillaume et Gabriel, on a déjà fait des pitchs à des grands comptes. Où il y a beaucoup de monde, où il faut vraiment expliquer notre produit, notre stratégie, nos capacités financières, enfin, etc. Donc là-dessus, il y avait pas trop de soucis. Et puis il y a commencé à y avoir des indices en fait dans cette réunion qui faisaient que on le sentait bien, même si je pourrais être là sur le podcast Fail Out parce que j'ai senti quelque chose, puis en fait ça s'est pas fait. Enfin, en l'occurrence, on a compris qu'ils étaient pressés. Ils étaient pressés de faire le deal, ils voulaient aller vite, et le CPO qui était là, qui était un Irlandais, à un moment lâche, non mais c'est important qu'on discute de tout ça, puis en plus Xavier, il faut que tu sois sur scène.
À telle date,
parce que c'est le Skillsoft Perspective, qui était le gros événement client qui a lieu chaque année. Voilà.
Bon là tu te dis c'est plutôt bien parti, effectivement.
Donc bon, alors évidemment... rationaliser après, c'est plus facile, mais il y avait un certain nombre de signaux faibles comme ça, et toute cette journée a été ponctuée de réunions, on était tous ensemble, après il y avait équipe tech, équipe produit, équipe sales, et puis en plénière...
Donc équipe avec équipe, c'est-à-dire que là, tous tes collaborateurs...
Non, le fondateur.
Ok,
Guillaume et Gabriel.
Ouais. À ce niveau-là, sont déjà au courant, tes équipes internes?
Alors non. Alors ça a été un grand moment aussi difficile,
l'annonce aux équipes.
Alors il s'avère que j'ai pas les dates exactes, etc., mais on était peu ou prou dans les 6, 9, 12 mois qui ont suivi la mise en place des décrets d'application de la loi Hamon, qui fait que si tu veux céder ta boîte, tu dois en fait
prévenir
et quasiment proposer un droit de premier refus ou de première acquisition aux salariés. Sauf que à ce moment-là, en fait, il y a pas de jurisprudence, il y a rien. Et les deux cabinets d'avocats qui discutent, en fait, comment on fait? On va à gauche, on fait pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on prévoit un document à remettre à chacun des salariés pour leur dire, il est possible éventuellement que l'entreprise soit cédée, et conformément à la loi, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une offre. On organise une réunion avec tous les salariés, on était 27 de mémoire.
Là, ils n'étaient pas du tout au courant.
Ils ne sont pas du tout au courant, et là, je leur dis, vous savez qu'on est en train de lever des fonds, etc., et là, on a peut-être une opportunité de céder l'entreprise, et vous avez 30 jours à partir de ce moment-là pour faire une offre ou renoncer. Et donc, on leur propose un document à signer pour qu'ils renoncent à l'acquisition de vos déclics. Et là, c'est y a la nature humaine qui rentre en compte. Donc, il y a des gens qui disent, c'est super, c'est cool, qui signent tout de suite le truc. T'en as d'autres qui disent, oui, mais attends, combien ça coûte? Parce que nous, si on sait pas, on peut pas faire d'offres. Je peux pas vous aider. Oui, mais en fait, on peut pas vraiment racheter si on sait pas comment faire. Oui, mais
c'est tout la problématique de cette loi.
La législation, on en parle dans chaque épisode.
Voilà, elle est comme ça. Puis il y en a d'autres qui disent très bien, je vais réfléchir.
Et qui repartent avec le papier.
Ils perdent le papier. Puis le lendemain, il n'est pas signé. Tu n'es pas signé, etc.
Qu'est-ce qu'ils doivent signer? C'est le fait qu'ils ne veulent pas s'engager.
Ou de faire une offre.
Oui.
Exactement.
Mais s'ils signent pas dans les 30 jours. C'est considéré comme pas d'offre.
Exactement.
Mais toi, t'as ce timing.
Mais pas moi. C'est-à-dire que ça veut donc dire pour un Américain, comment ça? Il va falloir qu'on attende 30 jours pour savoir si un salarié qui, de toute façon, ne peut pas racheter l'entreprise, va la racheter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, il y a eu un...
Ça rafraîchit les relations un peu inutilement, en fait.
Mais j'ai pas d'infos, mais suite à cette loi Hamon, vous en avez peut-être plus que moi. Il y a des salariés qui se sont portés acquéreurs d'entreprise et acquéreurs.
Je ne sais pas si c'est une histoire comme ça, mais peut-être à plusieurs.
On va se renseigner. Quelqu'un dans nos auditeurs a l'info, je suis preneur.
Sur des petites boîtes, ça s'est fait.
Moi, je pense qu'il y en a, mais pas des boîtes valorisées au sens d'une start-up qui est valorisée alors qu'elle a un cash flow négatif.
Ok. Pardon, je t'ai coupé.
Non, non, il y a pas de souci. Et à l'époque, on avait un contentieux avec un salarié. Et donc, de fait, on n'aurait pas la réponse de ce salarié-là. Donc
30 jours.
Ouais, mais si, mais va le voir chez lui. Non, je vais pas le voir chez lui. Je vais pas mettre en difficulté.
Se rajouter une autre.
Voilà.
Les Américains, vis-à-vis de la loi Hamon, ils sont pas très forcément réceptifs.
Non, ils sont pas réceptifs. Et je pense que le cabinet d'avocats qu'ils avaient choisi, qui était donc l'antenne française, je pense qu'ils ont été bons pour faire
pour
comprendre
expliquer,
que,
ouais.
Oui, c'est comme ça. Ok, ou considérer que c'est bizarre, etc. Mais c'est comme ça. Il y a pas de souci.
C'est normal.
Bon, ouais, ouais, ça change pas qu'on a quand même pas beaucoup avancé
pendant 30 jours.
Ouais, pendant à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Mais ça change pas que tous les soirs, avant que je les informe. Tous les soirs, je me retrouvais à scanner tous les documents, tous les contrats de travail, tous les trucs, tout ça, etc. Parce qu'il y avait Judy Lerache qui partait, puis après sur la partie produits, propriété intellectuelle, les contrats, voilà. Donc là, tu rentres dans une mécanique qui est, pour une petite structure comme était la nôtre à l'époque, c'est-à-dire sans middle management. Bah, très clairement, le risque, et c'est ce qui s'est passé, c'est que t'es complètement défocus sur le business, et que la seule fois de l'histoire de la boîte où on a été découvert à la banque, c'était début mai. C'est-à-dire quelques jours après, on vend et on est à découvert. Alors, c'était une affaire de cash flow et de BFR, enfin, etc. Mais ça veut quand même dire que donc, à l'instant T, début mai, la boîte a plus de cash et le deal n'est pas fait.
Là, tu reprends après, tu...
Ah bah là, tu reprends...
Tu relances tous tes clients.
Tu reprends Frank Sinatra, hein, tu vois, t'es à genoux au mois d'avril et tu rebondis au mois de mai.
Je me mets dans l'ambiance.
Back in the trade, that's life. Et ouais, voilà.
That's life. Et donc, bon, c'est la vie.
Bah oui. Et oui, c'est la vie. Et donc, il faut être d'un côté fataliste, tu vois, c'est la vie. Et puis d'un autre côté, c'est la vie, c'est ta vie. Donc, tu peux influer dessus si tu t'arraches et si tu y crois. Et voilà. Moi, j'ai toujours cru, on n'a rien lâché et on y est arrivé.
Je vous propose d'accélérer un peu parce que je vois le temps qui défile et il y a quand même encore beaucoup de sujets qu'on voulait aborder avec toi, Xavier. Sur toute cette phase de négo, tu as parlé des sujets de la garantie active passif. Qu'est-ce qui se négocie d'autre où ça frictionne un peu? Parfois, peut-être pas, mais souvent.
Non, le prix, bien évidemment. Le prix est à la fois quelque chose que sur lequel l'acquéreur ne veut pas s'engager.
Quand tu dis il veut pas s'engager, il y a pas de montant précis qui sont donnés.
Celui qui achète raisonne en fourchette.
Ok. Il faut bien à un moment donné quand même.
Celui qui vend ne veut pas de fourchette. Voilà. Et ils nous sortent une première offre intéressante, mais à ce moment-là.
Mais moindre que in fine.
Bien moindre, ouais.
Bien moindre. C'est quoi? C'est la moitié?
C'est un peu plus que la moitié.
Ouais, et toi, avec 12. Tes associés, vous étiez briefé là-dessus, vous étiez donné une bottom,
on avait fait un choix de que je gère seul les négos avec le cabinet d'avocats et avec la banque d'affaires, de façon à faire que quand je les débriefe, ils soient pas pollués par leur perception à eux. Et que ce que je leur dis et quelles sont les options qu'on a, ils puissent vraiment être challengeants sur le donc pour que je les convainc. Voilà.
Donc vous vous mettez d'accord sur un prix minimum en dessous duquel vous ne vendrez pas, parce que je reviens sur ton passé. Du coup, tu as été en liquidation judiciaire, tu l'as rappelé, hein, ton patrimoine personnel était en jeu. Là, t'as l'opportunité de revendre, alors même si c'est un peu plus que la moitié, 12 millions. Enfin, c'est ça change une vie.
Oui.
Quand même.
Non, mais bien sûr. Mais après, moi, j'ai plutôt un profil de, on va dire, business developer, de vendeur. Accepter une première offre, ça n'existe pas.
Donc tu restes dans le process d'une vente classique.
Quand on vendait la solution Vodéclic et que on disait voilà, on fait une prop à la X. en fonction de l'acheteur. Si l'acheteur était une grande boîte avec un process d'achat structuré, on savait qu'on allait se faire détricoter, donc on pitchait pas de la même façon. S'ils nous disaient les acheteurs étaient agressifs, bah écoutez, très bien, mais de toute façon on va discuter avec les vrais acheteurs volontairement pour les mettre sous pression. Donc tout ça, c'est une affaire de négo. Mmh. Et évidemment, la négo, c'est une affaire de rapport de force entre où se situe la ligne de crête. Tu vois, à quel moment tu vas tomber.
Ce qui veut dire que pour atteindre les 20, même si vous n'avez pas communiqué nous ce qu'on a entendu, les 20 millions de dollars, tu demandes 25, tu demandes 30?
Non, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que eux, leur crainte, c'est que, puisque pour le coup, comme on était sur un dual track, ils ont essayé de nous imposer le fait qu'on arrête notre process d'augmentation de capital, qu'on a refusé, parce que je leur disais, écoutez, c'est simple, si moi j'arrête.
Donc la négo clé, elle est là, en
voilà,
fait.
Je me tue avec les fonds.
De pas être en train
d'exclure. Il y a un fonds qui est plus là, alors que je peux pas leur dire que je suis en train de vendre. Je reviendrai pas à la table des discussions. Donc en fait, vous nous tuez. Si on fait ça, donc c'est hors de question. Si c'est comme ça, bah, vous repartez chez vous. Donc on a trouvé une solution sur le fait que...
On n'ira plus aux trois mailles.
Voilà, exactement. donc la solution, ça a été de dire que nous, on ne s'engagerait pas avec une LOI pour une levée de fonds. D'accord ? Mais on laissait le doute planer sur le fait qu'on pouvait discuter avec d'autres. Évidemment, l'acquéreur, plus il met d'argent et de temps, ils sont venus à 6 ou 7 pour démarrer les due deals, ils ne veulent pas qu'au moment où tu dois signer, ah bah by the way, ce soir, on n'ira pas là où on a rendez-vous pour regarder la Ligue des Champions parce qu'on va regarder le match avec d'autres. Et là où on a trouvé un terrain d'entente, c'est de leur dire, écoutez, puisque dès le début, ils m'ont dit, nous, Xavier, ce qui est très important, évidemment, le juridique, ce qu'on signe, etc., mais c'est la parole donnée. Bon, moi, je suis venu sur ce terrain-là. Et moi, je leur ai dit... Il y a des infos qui sont sorties dans la presse et voilà, c'est pas éloigné de la réalité. Moi, je leur ai dit, c'est pas compliqué, je veux au moins ça et pas plus que ça. Et vous avez ma parole.
C'est clair.
Donc ça veut dire que si on est à 2 heures de la signature et que là, je vous dis non, mais en fait, c'est pas X, c'est X plus 30%, ça veut donc dire que je vous aurais menti et qu'à ce moment-là, le lendemain de la signature, on ne pourra pas travailler ensemble puisque vous n'aurez pas confiance en moi. Donc moi, je vous donne ma parole.
Qu'à ce montant-là.
Que ce montant-là sur le SPA, je signe. Ok, Xavier, on le prend au mot. Et on l'a continué, comme ça. On a avancé,
Donc ça fait quand même gagner beaucoup de temps de discussion d'avocat quand les décisionnaires discutent ensemble.
On accélère très rapidement, donc vous signez, on a parlé de ce jour de la signature et y a le lendemain, tu vas retrouver ta boîte mais qui n'est plus la tienne et pour ça tu nous as choisi Supersonic d'Oasis. Donc Supersonic, c'est l'ambition ou c'est que une fois que tu rentres, ça va très vite, très très vite, trop vite.
Les deux, je sais pas pourquoi Supersonic, parce que il y avait un projet exceptionnel et très très ambitieux sur cette acquisition, à la fois pour la boîte, pour mes associés, enfin vraiment, vraiment pour tout le monde. Là, le projet, c'était de conquérir le monde sur le différents segments de marché. C'était de proposer la solution avec tous les commerciaux de Skillsoft aux États-Unis, plus de 250.
Grosse synergie.
Ouais. Énorme investissement sur la technologie.
Et les modalités d'accompagnement, c'était lesquelles? C'était combien d'années? C'était
Alors, il y avait deux logiques. Il y avait une logique de rétention, c'est-à-dire d'éviter que tu aies envie de partir, puisque tu allais perdre. Et de l'autre côté, de motivation, c'est-à-dire de donner envie de rester pour peut-être gagner. Voilà. Donc c'est, y avait,
qui se traduit par quoi très concrètement?
Un modèle avec des grosses primes si on est toujours dans l'entreprise.
Sur des objectifs de présence uniquement? Exactement. Ou de performance?
Non, de présence. Ça c'est sur le fait que bah, si tu pars, tu les as pas. D'un autre côté, c'était assez marginal. Là, je pense qu'ils ont fait une erreur pour le coup. C'était assez marginal par rapport à la valeur du deal. Après, c'est toujours pareil. La valeur du deal, ta propre dilution, t'as ce qui te reste comme capital, l'imposition, enfin, etc. Moi, j'étais en direct. Hein, j'avais pas de report d'imposition, etc. Mais c'était quand même marginal.
En direct, c'est-à-dire pas de holding?
Ouais, okay. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire quand t'as tout perdu précédemment.
T'as envie de reprendre un peu.
Le sujet, c'est pas d'avoir du capital professionnel, quand même, quoi. Tu vois, c'est d'essayer de te refaire un peu la cerise, ou en tout cas que ce soit moins difficile. Et puis après, il y avait un gros programme d'incentive sur la performance globale de Skillsoft, pas simplement la nôtre.
Donc chiffre d'affaires, EBITDA classiquement.
Oui, mais au global sur Skillsoft, parce que le problème des earn-out comme ça, basé sur la performance de ce que la structure qui a été acquise à l'intérieur d'un autre groupe, mon analyse perso qui ne vaut peut-être probablement pas grand chose, hein, c'est que c'est immesurable, puisque de toute façon tu contrôles plus rien. Donc si on te dit oui, mais si ton produit il fait ça des EBITDA, oui, mais il a pas fait les EBITDA qu'il aurait pu faire parce que vous avez décidé de vous y prendre autrement. Voilà. Donc pourquoi Supersonic? Parce que le projet était fabuleux. Tous les trois cofondateurs de la boîte, on avait tous des nouveaux jobs, nouvelles responsabilités, des équipes à recruter, un produit à faire grandir. Un potentiel intéressant à déménager. On est passé en 3 mois, 4 mois, de 27 à quasiment 70.
Ok.
Nos bureaux étaient à Levallois. On avait dealé avec la mairie les sucettes, 120 par 176. Vaudéclic recrute 50 personnes. Enfin, deux trucs. Voilà. Et long story short, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai l'impression que c'est un peu le passage fréquent dans Cash Out.
C'est un dénominateur quand même.
Ouais,
pas pour tous, mais souvent.
Oui, mais c'est. Je pense que et quand je dis ça, il y a aucune déception, aucune tristesse. Ouais. C'est aussi la réalité du business, c'est que nous, on est une toute petite structure qui arrivait dans une grosse machine. Et on va dire que la machine allait pas très bien.
Tu le découvres après.
Ouais, tu le découvres après. C'est-à-dire que l'acquéreur, il te fait des due deals de malade où il va tout vérifier, où tu te dis mais comment est-ce possible d'aller vérifier ce genre de choses. Et toi, cédant, tu fais aucune due deal. Aucune.
Non, c'est pas normal. C'est coutume.
Aucune. Et
sur le deal, tu prends des actions de la boîte.
Ouais, c'est un montage compliqué, je pourrais pas résumer, okay. Parce que je vais, en gros, tu signes un truc qui fait 80 pages, avec, via un LBO, enfin, toute une mécanique.
Simple, un peu de cash, un peu d'action.
Voilà. Et là, sur cet earn-out, Skillsoft après, et c'est documenté dans la presse, hein. Ouais. Simplement, ils avaient été rachetés, sur un gros LBO de Charterhouse Capital. Un LBO qui a échoué, comme malheureusement souvent les LBO. C'est-à-dire que l'entreprise avait généré pas la croissance suffisante par rapport aux investissements qui étaient faits pour améliorer les EBITDA et financer le remboursement de la dette. Ça se présentait mal. Et donc, tout le management de Skillsoft a changé. L'énorme projet.
Tous les gens que
je connaissais, avec qui j'ai fait des fêtes.
Ouais,
bien sûr, on recevait des mails. Voilà, his position has been eliminated.
Exact.
Bien sûr, une position éliminée en soi, c'est une réalité. Il y a un formalisme qui est juste culturellement très différent du nôtre. Ouais. Juridiquement.
On dirait un jeu de guerre où tu as perdu
tout le groupe s'est réorganisé. Et là où moi, j'étais à quelques semaines, quelques mois de m'installer aux États-Unis, puisque sinon je partais constamment que des allers-retours, tout ça s'arrête. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Par contre, j'avais recruté une petite quinzaine de commerciaux. C'est une partie difficile, en fait, parce que t'es au milieu d'une période où tu te dis, bon, si c'est comme ça, je m'en vais. Mais s'en aller, ça consiste
à lâcher
les équipes. Ça consistait aussi pour moi à laisser quelques billes sur la table et d'où je venais dans mon parcours personnel.
T'as pas envie.
C'était pas possible. Et je me suis dit, voilà, je me relève. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et je me suis transformé en super SVP sales, où j'ai beaucoup appris avec les nouveaux acquéreurs. Beaucoup appris sur les process, le reporting, l'avant-vente, la vente,
etc. Du coup, tu restes à Paris, tu pars plus à Boston.
Ouais, mais j'ai appris, puis à un moment ou un autre, de toute façon, t'es rattrapé par ta propre histoire.
Je vais très très vite, mais c'est aussi un sujet. T'avais l'opportunité, tu l'as dit, de recruter énormément de monde, donc c'est des promesses, une vision que tu partages dans laquelle tu crois. Du jour au lendemain, on te dit on cut. T'as toujours les mêmes personnes en face de toi et tu dois dire bah là on arrête, alors, c'est pas évident.
Ouais, alors non mais c'est pas évident à expliquer, mais on avait j'ai toujours été très très proche des équipes. C'est vrai qu'il y a une routine émotionnelle, c'est pas celle dont j'ai parlé avec Arnaud, mais qui était très émotionnelle, c'est que tous les matins j'allais dire bonjour à tout le monde. Donc on faisait encore plus après l'acquisition des réunions, des séminaires, des fêtes, etc. Puis un jour, je fais une grande réunion pour leur expliquer en fait que le deal avec Skillsoft avait changé. Et en fait, pour les commerciaux, eux, l'opportunité, les commerciaux que j'avais recrutés en France, c'était pour le marché français, l'opportunité pour eux changeait pas. Et pour l'équipe technique et produit, là, il y avait une opportunité qui était extrêmement intéressante, c'est que au lieu de développer vos déclics,
toutes les opportunités,
au lieu de développer vos déclics, ils développaient pour Skillsoft. Par contre, ça a coupé la boîte en deux, où les gens n'étaient plus alignés entre je vends un produit qui est développé par l'équipe tech.
On va parler de la vie d'après, mais il y a une question qui est chère à mon ami Renaud que je vais même te laisser poser.
En primeur. C'est le fameux jour où on claque la porte pour la dernière fois.
En tout cas, on la ferme. Ouais.
Oui. Non, on n'est pas obligé de la claquer. Où on ferme la porte pour la dernière fois. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu fais juste après?
Ça s'est fait en deux fois.
J'avais oublié mes clés, donc je suis revenu.
Ça s'est fait en deux fois. Je suis parti fin février 2018, donc presque au bout de 3 ans. Et mi-février, il y avait le sales kick-off worldwide, donc avant le Covid, avant tous ces trucs, etc. Et là, toute l'équipe sales était conviée pendant 4 jours à Atlanta pour le kick-off, les produits, les trucs, les machins. Donc moi, je vois avec avec le CEO de l'époque, est-ce que tu veux que je vienne ou pas? Moi, ça me ferait plaisir de venir vous dire coucou, etc. Il me dit, ouais, bien sûr, viens, etc. Et c'était lundi, jeudi. Et là, je regarde les prix des billets pour toutes les équipes, etc. Et là, je me dis, ouais, c'est super cher, en fait. Pff, on va faire un truc, on va faire une bidouille. Et donc, pour tout le monde, on a pris des vols. Ceux qui voulaient, il y en a 2-3 qui sont pas venus. Au lieu de faire un aller-retour Paris-Atlanta, on a fait un Paris-Atlanta. Sales kick-off 4 jours, et puis après, Atlanta-Miami, jusqu'au dimanche. Chacun payait son billet d'hôtel, mais le billet d'avion, en fait, faire un vol comme ça, passant par Miami pour rentrer le dimanche, c'était le même prix, donc il n'y avait pas de souci en termes de financement. Et donc, on a fait une chouille pas possible pendant 3 jours à Miami, avec un hôtel sur South Beach. Donc c'était
qui faisait office de pot de départ, un peu alors,
oui et non. Parce que je pense aussi à toutes les équipes non-sales qui n'étaient pas là. C'est pour ça que c'était en deux fois. Donc là, avec les équipes sales, c'était vraiment touchant parce que voilà, ils savaient que c'était la fin, que je partais. Et puis après, c'était fini. Je suis revenu quelques jours au bureau, mais bon, c'était fini. Puis après, on a fait une grande fête, post-session, quelques mois plus tard, avec toutes les équipes. Voilà, il y avait une bonne ambiance musicale aussi.
On va parler de la vie d'après, parce que il y a toujours une vie après la vente, et encore plus une vie après le départ. Et pour ça, tu as choisi Again de
Archive.
Archive. Ouais. Je savais que j'allais mal le prononcer. Ouais, c'est bien. Allez, on écoute ça. We'll be right back. je connaissais pas.
Ah, écoute, c'est envoûtant, avec une rythmique très soft, assez long, une belle histoire, un chemin.
Tu le vends bien.
Ouais, bah, c'est le chemin qui me motive pour la suite. Où j'arriverai, à la limite, peu importe. Je me suis planté une fois, j'ai réussi, entre guillemets.
Aurel Sandy, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Qui est-ce qui dit ça?
Aurel San.
Oui, certains attribuent ça au Dalai Lama. Moi, j'aime bien dire c'est Patrick Topalov, l'humoriste, parce qu'en fait, je crois que personne ne sait vraiment...
Qui a dit ça? Après, il y a plusieurs manières de le dire.
Oui, moi, je crois que le chemin est plus intéressant que l'arrivée.
Point, ouais.
Voilà.
Et donc là, un nouveau chemin à construire, tu sais... Où est-ce que tu vas?
Oui. Depuis 2 ans, et ça fait beaucoup rire, mais mes enfants, je suis devenu youtubeur.
Alors attends, là, tu nous devances. Là, on repart du... Ça y est, tu quittes la boîte, ça fait pas 2 ans que t'es youtubeur. Au moment où tu quittes la boîte.
Ah oui, non.
Est-ce qu'il y a un moment, juste après?
Tout un cheminement, justement. Clairement, une fois que c'est fini.
Est-ce que tu te fais kiffer? Tu te fais un cadeau à tes enfants?
Ouais, j'aime bien les voitures anciennes.
Ok.
Voilà, donc j'ai acheté une belle auto ancienne, voilà, pour rouler, cheveux au vent, même si j'en ai presque plus, c'est pas grave, c'est l'idée. Donc, c'est bon, hein.
Ah ouais, j'adore ce que je disais à Raphaël.
Raphaël, il en peut plus, la Renault, il en peut plus non plus.
On est en transe.
Again, les amis.
Ça se marie bien pour raconter l'histoire, non, mais on peut laisser
bien
tourner.
Bien sûr.
On se visualise dans la décapotable avec ce son aussi.
Hein. Il faut pas se leurrer, il y a des millions de gens qui ont des tout petits revenus, etc. Forcément, ça change la vie de vendre. Je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules. Une façon de les garder, c'est de faire plaisir à ses proches, de se faire plaisir. Je passais beaucoup de temps en famille, avec ma femme, mes enfants. Et puis, surtout, je voulais faire un break. Parce que, mine de rien, on a démarré version supersonique post-session, où j'étais déjà cramé à ce moment-là. Et là, les 3 ans ont été très rock'n'roll et aussi très difficiles parce que ça se passait pas comme prévu. Et j'ai fait
oui, mentalement et physiquement, t'en sors pas indemne de toute cette aventure.
Ouais, c'est ça. Souvent, on parle de charge mentale pour d'autres sujets. Je veux dire, l'entrepreneur qui monte une boîte comme globalement. Toutes les startups, c'est-à-dire qui a jamais sorti d'EBITDA, où il y en a quelques-unes. Il y a Ludovic avec Attractive World qu'on a parlé. Mais sinon, la réalité, c'est que le premier truc que tu ressens quand tu as signé, c'est 90% de ton stress qui est la trésorerie disparaît. Et là, honnêtement, tu peux être stressé sur beaucoup de choses avant d'être stressé comme « Ah merde !» Dans 3 mois, on n'a plus de cash. Là, je peux te dire, il faut vraiment que tu aies des très, très gros problèmes. Donc, une fois que tu as vendu, tu n'as plus ça. Puis bon, là, la donne, c'est la suite. Et la suite, ayant connu les deux facettes, est-ce que j'ai envie de repartir? Est-ce que c'est la bonne solution? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire?
Il y a des questions comme ça qui, parfois, donnent le vertige.
Ouais, alors... Ce que moi j'ai fait, c'est qu'en fait on réussit pas tout seul. Et j'étais pas actif du tout, mais j'ai passé mon temps à rencontrer des gens qui m'appelaient, qui m'appelaient pas, que j'appelais. Qu'est-ce que tu fais? On discute. T'as besoin d'aide? Bah tiens, c'est quoi ton souci? Je vais t'aider. J'ai fait quelques investissements. J'ai investi dans la boîte de mon ancien associé. Tout ça en fait à la fois pour regarder, essayer d'avoir des idées,
garder une vie sociale,
ouais, rester fit, énorme sujet, la vie sociale, c'est-à-dire que quand t'es le patron d'une boîte qui a été rachetée, tu portes un énorme nom, je veux dire, on allait au salon professionnel, sans aucune arrogance ou prétention, mais en fait tout le monde veut te rencontrer, et comment t'as fait, et pourquoi t'as fait, et avec qui t'as signé, et comment ça se passe. Le jour où tu pars, bah, il te reste ton profil LinkedIn, la boîte que tu as vendue change de nom, tu as fait des investissements, donc ça descend page 8 de ton profil LinkedIn, Et si tu fais pas gaffe, si t'es pas solide dans ta tête, bien entouré aussi, c'est pas parce que t'as pris du blé, c'est un peu une petite mort sociale. Ouais. Donc, il faut rester fit sur des trucs. Alors, moi, je suis un grand fan de jardinage. Voilà, j'ai refait mon jardin. voilà, j'ai fait plein de trucs, etc. Et puis,
mais les plantes, ça répond pas quand on leur parle.
Ouais, mais c'est génial, les plantes, parce que c'est la contrainte du temps.
C'est la vie.
Ouais, t'as quelques techniques pour faire que tes tulipes elles peuvent pousser à un autre moment que mars, mai. Mais sinon, tu subis, et je pense que l'entrepreneur, c'est ça, c'est d'accepter que tu subis ton environnement, mais que sur certains sujets, tu peux l'influencer, quoi. Voilà. Et il s'avère que je suis un amateur d'horlogerie aussi, un produit absolument fantastique. C'est pour moi, le plus beau symbole du génie humain de 10 000 ans d'observation des astres, miniaturisé avec de la R&D, avec de la complexité. C'est aussi dur de fabriquer ou de designer un mouvement horloger que de fabriquer une fusée. Puis pour le coup, ça sert à rien. On n'a pas besoin de montre. On a nos téléphones, etc. Mais c'est le souvenir de ta famille. C'est un cadeau pour une naissance. C'est vraiment intéressant. J'ai créé une chaîne YouTube là-dessus. Voilà. Je suis devenu YouTuber.
Delicious.
Voilà, un cadran délicieux avec l'accent.
Donc tes enfants sont contents que tu sois YouTuber. T'es remis
ouais,
à la page.
Ça les fait rire. Puis comme ça, si un jour ils veulent monter une chaîne pour se la donner et tout ça.
On peut te voir sur TikTok ou pas encore?
Non, TikTok, parce que là, il faut faire les bouffonneries. Je sais pas si j'y arriverai, quoi.
Je précise que c'est monté quand même relativement vite. C'est 20 000 abonnés aujourd'hui.
Ouais, un peu 17 000 et des brouettes, bientôt 20 000.
Ouais, mais là, après cette émission, tout le monde s'abonne.
Attends, bien sûr,
on va passer les 100 000 là.
Tous les abonnés de Cash Out, sortez de Shopify ou de Deezer, les amis, rendez-vous sur YouTube.
Tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas nous faire ça. Nous, on va t'amener sur Spotify et Deezer.
La prochaine vidéo de Petite Montre en Train que j'enregistrerai, mes chers amis, je ferai un spécial featuring pour Cash Out.
Eh ben écoute, avec grand plaisir.
J'ai décidé de
croiser. Non mais du coup, de cette chaîne YouTube, ça part d'une passion.
Ouais.
Et puis en fait, tu vas voir qu'il y a une vraie appétence, des vraies histoires à raconter. Ça t'en était peut-être certain, mais de l'intuition, ça devient une certitude. Et ça va devenir... Je ne sais pas si on peut en parler, mais
ouais,
un projet entrepreneurial.
Oui, ouais, exactement. En fait, le principe de cette chaîne, c'est de faire venir des clients témoigner de leur montre. Elle peut être chère, moyennement chère, très chère, pas chère, jeune, peu. Voilà. Donc ça va de 18 à 60 ans pour des montres de 300 euros à plusieurs dizaines de milliers. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est la relation affective entre un client et sa montre. Et en fait, ça m'a permis de découvrir vraiment les deux pain points du marché. Et là, il y a vraiment une belle opportunité. C'est que d'un côté, pour un acheteur lambda, non initié, non informé, c'est-à-dire 99% des clients, c'est extrêmement dur d'acheter une montre parce que les specs techniques sont difficiles à comprendre, l'information est rare. La distribution est très indirecte, c'est du retail, c'est compliqué. Il y a plus de 1000 marques sur le marché, et même des passionnés d'horlogerie, au bout de 20, ils y arrivent plus. Et de l'autre côté, si t'es pas dans les 20 et que t'es les 980 autres, c'est extrêmement dur de vendre.
Trouver sa place.
Ouais, c'est extrêmement dur de vendre une montre neuve. Et c'est un marché où il y a beaucoup d'initiatives digitales, mais sur le marché seconde main. Moi, je pense que l'opportunité, c'est vraiment de
revenir sur le neuf.
Ouais, et de révolutionner la relation client. Je pense que le capital client dans le luxe, en général, est sous-exploité. Et avec la chaîne, j'ai clairement démontré que tu as le symbole de trucs que j'adore dans les commentaires. C'est quand tu as quelqu'un qui dit « Bon, j'ai vu l'alerte. C'est un modèle qui me plaît pas. Mais comme j'aime bien la chaîne et... la façon dont les clients en parlent, j'ai écouté. Et là, je me suis rendu compte que cette marque que je n'aimais pas, mais c'est parce que je ne la connaissais pas. Et les mots utilisés, l'affection, l'authenticité du propriétaire m'a donné envie de regarder. Et je suis allé sur le site et super bien ce qu'ils font. Et voilà. Et c'est une affaire de partage.
Ça me fait penser à une émission récente là qu'on a sortie avec Frédéric Salles sur l'après et comment déjà pour occuper son temps, partir d'une passion et puis finalement à un moment voir ce que t'as fait, hein, c'est découvrir des pain points, se dire mais il y a quand même quelque chose à faire encore.
Il y a une question forte que je pense vous vous êtes déjà posée, ou d'autres, d'autres personnes qui sont venues témoigner se posent, c'est faire de sa passion un job. Ça peut être dangereux. Ça peut te dégoûter du...
De la passion.
Ouais, ouais, bien sûr. Ça peut te dégoûter du sujet.
C'est Marc Simoncini, lui, qui a acté que, qui était fan de... qui était fan de vélo, de revenir à quelque chose de matériel dans, dans l'objet. Qui est...
Mais est-ce qu'il est encore fan de vélo?
Bah, alors en l'entendant, oui. Alors est-ce que c'est parce qu'il doit, il doit les vendre maintenant? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression.
Ouais, bon, ma conclusion là-dessus, c'est que bah, je repars avec, face à moi, une pièce. Voilà, et quand on lance une pièce, elle s'arrête jamais sur la tranche. Donc je sais que la suite c'est fait leur grêle comme je le disais tout à l'heure. Et finalement est-ce que je sais faire quelque chose d'autre que d'essayer? J'en suis arrivé à la réponse que non, donc je réessaye.
Tu parlais du jeu du pile ou face. Encore une fois, t'as vécu un moment dans ta vie où t'as été très short cash d'un point de vue personnel. Puis ça allait mieux avec la revente de la boîte. Là, t'es dans une phase où tu relances un projet. Est-ce que tu mets tapis et qui tout double, ou est-ce que bah t'as sécurisé aussi parce que c'est de fait un sujet.
Non, je mets pas tapis. Je crois que pour réussir dans un projet, il faut avoir une saine pression extérieure, un regard sur ce que tu fais, etc. Et toute propension gardée. On peut lancer un projet avec 10 000 balles ou avec 1 million. Si t'as les 10 000, bah, lance-le. Si t'as 1 million, lance-le. Mais.
C'est pas le montant investi.
Être tout seul, ça a aucun sens. Ouais. Ça a aucun sens.
Oui, c'est l'aventure humaine.
Et si tu veux espérer réussir, il faut déjà commencer par convaincre que autour de toi, les gens se disent, ouais, mais c'est une super idée. Il y a un vrai potentiel. La façon, j'en ai pas parlé parce que c'est trop tôt et puis c'est pas le sujet, mais la façon et l'exécution. Est essentiel. Si tu fais tout seul parce que t'as les thunes, je pense que c'est déjà un bon moyen de se planter. Et comme j'ai goûté à la poussière, je sais que ça a très très mauvais goût, quoi.
T'as goûté à la poussière, mais aussi un peu des étoiles. Et pour fêter ça, j'ai fait une transition hasardeuse, mais je cherchais comment conclure notre superbe échange. On rappelle juste le nom de ta chaîne, Dailicious. J'imagine que c'est un nom de code qui deviendra a priori le nom de la boîte, peut-être pas.
T'es pas loin.
Ok, je suis pas loin et on n'est pas loin de la fin non plus. On finit avec Gloria et Stéphane, Miami Sound Machine. Conga, on écoute ça, c'est là-dessus que t'as fait la fiesta pour fêter la vente de vos déclics. Merci à toi.
Merci Thomas, merci Renaud.
Merci à toi, très bel échange, très bel épisode.
Merci à Raphaël Omanet.
Et merci à Raphaël, bien sûr.
Bah oui.
Et merci à vous tous qui nous suivez de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses. Donc ça, c'est la fête à Miami.
Ouais.
Donc c'est Morito au bord de la piscine à Miami.
C'est super.
Ouais.
Hop, 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 hop. Ça s'entend dans les micros. Je sais qu'on a envie de faire de la batterie là sur la table. C'est bon ça.
Du bon hein.
On laisse tourner un peu, on n'est plus à
ça près.
À 2 minutes près. Après le refrain, on quitte. Encore une fois, merci Xavier.
Merci à vous les gars.